Et il est maintenant midi et demi, temps universel, 13h30 à Paris. Anne Jamena, c'est l'heure d'Afrique Midi, comme promis avec vous. Nemo Ampis, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Afrique Midi sur RFI.
Plus de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes demain au Tchad pour un triple scrutin, dont des législatives pour tourner la page de la transition débutée à la mort d'Idriss Déby en 2021. Aujourd'hui, les nomades et les militaires ont commencé à voter. Nous sommes en ligne avec Nadia Ben Mahfoud dès le début de ce journal. Les ambitions politiques d'Ousmane Sonko dévoilées hier face au Parlement. Le Premier ministre sénégalais a notamment beaucoup parlé d'économie. L'une de ses priorités, faire payer moins à tous les Sénégalais, mais faire payer tous les Sénégalais. Les suites du procès de l'année au Maroc, Saïd Nasir est ancien président du Wydad de Casablanca au cœur d'une tentaculaire affaire de trafic de drogue internationale. Le procès est ouvert depuis quelques mois mais connaît un nouveau rebondissement. La cour a refusé de faire comparaître celui que la presse surnomme l'Escobar du Sahara, l'homme qui a fait éclater l'affaire. Et puis, lui a vu l'année 2024 en vert dans la rétro sportive de ce samedi, la Binimania. Retour sur un Tour de France de folie pour Binyam Girmay, le cycliste érythréen, l'une des stars de la Grande Boucle cet été aux côtés du maillot jaune Tadej Pogacar. Triple scrutin ce dimanche au Tchad. Plus de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections législatives, provinciales et communales. Un vote qui, pour certains, se déroule aujourd'hui. Sont concernés les membres de la diaspora, mais aussi les nomades et les militaires. Bonjour Nadia Ben Mahfoud.
Bonjour Nemo.
Vous revenez de Mandelia, à 50 km au sud de N'Djamena, où se trouvent deux bureaux de vote nomades implantés dans deux camps d'accueil des nomades en transhumance.
Oui, deux bureaux de vote avec près de 750 électeurs inscrits. Le premier était quasiment vide ce matin, le second bien rempli et très animé. Un délégué du parti RNDT présent sur place dénonce des fraudes. Toute la matinée, les électeurs ont pris les bulletins et au lieu d'aller dans les isoloirs, ils sont passés par une case en marge du bureau, puis ils sont revenus mettre leurs bulletins dans les urnes. C'est ce qu'il a rapporté à un représentant de l'ANJ, l'Agence nationale de gestion des électeurs, présent sur place. Dans ce même bureau, des candidats à l'élection législative ont fait le déplacement lorsque j'y étais pour dénoncer leur adversaire du MPS. Il l'accuse d'avoir distribué ce matin du sucre aux nomades du camp pour influencer leur vote. L'un d'entre eux demande l'annulation de ce bureau. En parallèle, j'ai pu échanger avec des observateurs tchadiens de l'Observatoire des associations des processus électoraux. Ils n'ont pas pu avoir accès au bureau de vote des nomades. Ils expliquent que c'est par manque d'effectifs et surtout de logistique car ces bureaux de vote sont itinérants.
Et au total, Nadia, plus de 500 bureaux de vote dédiés aux nomades sont répartis sur l'ensemble du territoire. Mais on le disait, les militaires votent également aujourd'hui. Tôt ce matin, vous vous êtes rendu dans une caserne au centre d'instruction militaire de Koundoul. C'est à 25 km au sud de la capitale.
Oui, il y avait là quatre bureaux de vote pour plus de 1500 militaires inscrits. À notre arrivée, l'isoloir n'était pas bien installé. Le vote ne pouvait pas se faire en toute intimité. Sur instruction d'un rapporteur de l'ANJ présent sur place, les militaires ont changé l'emplacement de l'isoloir, puis le vote s'est déroulé dans l'ordre. Plus généralement, les observateurs nous ont rapporté, je cite, des cas de vote influencés dans d'autres bureaux dédiés aux militaires.
Nadia Ben Mahfoud qui suit pour RFI ce triple scrutin au Tchad. Merci Nadia. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra est en train de prononcer son discours annuel sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale. Le président entend faire de la situation sécuritaire, diplomatique et économique la colonne vertébrale de sa politique pour l'année 2025. Lui qui invite ses concitoyens à s'inscrire massivement sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle, mais également des législatives et municipales à venir. C'était une prise de parole très attendue hier également au Sénégal, la déclaration de politique générale d'Ousmane Sonko devant le Parlement. Le chef du gouvernement a promis d'introduire prochainement un texte pour revenir sur la loi d'amnistie concernant les violences politiques entre 2021 et 2024. Ousmane Sonko qui a précisé un point sémantique en fin de journée, modifier ou abroger cette loi. Les deux options sont sur la table. Il a également été largement en question d'économie, une économie restée enfermée dans le modèle colonial, a lancé le Premier ministre qui en a profité pour annoncer une importante réforme fiscale pour augmenter les recettes de l'État. Précision, Alexis Bédu.
Collecter plus d'impôts tout en essayant d'être plus juste, c'est l'ambition du Premier ministre Ousmane Sonko qui veut augmenter le taux de pression fiscale à 20%, que la part des impôts collectés soit plus importante dans l'économie sénégalaise. Il veut, je cite, faire payer moins à tous les Sénégalais, mais faire payer tous les Sénégalais. Élargissement de ce qu'on appelle l'assiette fiscale et actualisation du barème de l'impôt sur le revenu. Le Premier ministre qui promet également de rationaliser certaines exonérations fiscales dans différents secteurs. C'est le cas par exemple pour les cimenteries. Il a aussi dit que le Sénégal allait se retirer de toutes les conventions bilatérales impliquant un paradis fiscal et renégocier certaines conventions défavorables au pays, selon lui, un moyen de lutter contre l'évasion fiscale et de s'assurer une meilleure contribution des multinationales présentes au Sénégal. Devant une situation économique qu'Ousmane Sonko considère lui-même comme catastrophique, le gouvernement continue l'affichage de ses ambitions. Parmi elles, hisser le Sénégal parmi les économies les plus compétitives d'Afrique, a assuré le Premier ministre.
Alexis Bédu du service économie de Radio France Internationale, et j'ajoute qu'Ousmane Sonko a également promis la promotion du multilinguisme avec la généralisation de l'enseignement de l'anglais à l'élémentaire et l'utilisation des langues nationales dans le système d'éducation. En République démocratique du Congo, le bras de fer se poursuit en cette fin d'année entre l'État et les médecins. C'est aujourd'hui qu'une grève radicale décrétée par le syndicat national des médecins débute. Si elle ne concerne pas les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous état de siège ainsi que les banques de sang, elle aura bien lieu dans les hôpitaux publics du reste du territoire. Selon les grévistes, les autorités ne respectent pas leurs engagements quant à l'augmentation de leur salaire, jugé trop insuffisant. Je vous propose d'écouter le docteur John Senga, secrétaire général du syndicat national de la profession, le SINAMED.
Les assemblées générales des médecins avaient décidé de durcir le ton de leur mouvement de grève en débrayant totalement des hôpitaux et des centres de santé à partir de ce samedi. Pour certaines provinces, un programme de polarisation des urgences a été mis en place. L'attitude adoptée par les médecins est tout simplement consécutive à l'indifférence et au mépris manifesté par le gouvernement face à la misère des médecins à cause de leur rémunération qui est très modique. Malgré les engagements pris par les ministres, aucune avancée n'a été observée sur le terrain. Raison de l'exacerbation de la colère des médecins des services publics de l'État. Il va sans dire que ce mouvement sera observé dans tous les hôpitaux de la République démocratique du Congo. Nous allons faire une première semaine et nous allons nous retrouver le vendredi 3 janvier 2025 pour faire l'évaluation et adopter une autre attitude par rapport à l'évolution sur le terrain.
John Senga, secrétaire général du SINAMED, avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégua. Direction le Cameroun, dans ce journal où il n'est pas rare en ces périodes de fêtes de fin d'année que des produits illégaux se retrouvent sur les marchés. Illustration à Eboloa, dans le sud du pays. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un bus de transport en commun de 70 places rempli de divers produits avariés a été saisi. Les autorités ont dans la foulée ouvert une enquête dans l'espoir de démanteler le réseau. Richard Onanena à Yaoundé pour RFI.
Le bus, initialement prévu pour le transport des passagers, a été saisi à la sortie d'Ebolova, la ville principale de la région du Sud Cameroun, après qu'un informateur ait alerté la force de l'ordre. La cargaison saisie a ensuite été brûlée. Le conducteur a été interpellé et les autorités locales ont tout de suite annoncé l'ouverture d'une enquête pour, je cite, « démanteler le réseau et punir les coupables ». Des sources sécuritaires rapportent que plusieurs cargaisons de ce type échappent régulièrement au contrôle. Des saisies de ce genre sont fréquentes en fin d'année dans cette région du Sud Cameroun. En 2019, 5 tonnes de produits congelés avaient par exemple été interceptées. L'importation de poulets et porcs congelés est interdite au Cameroun pour protéger la santé des populations, mais aussi pour favoriser le développement des filières locales selon le gouvernement. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Les suites au Maroc du procès de Saïd Nassiri, ancien président de l'un des clubs de football de Casablanca, le Wydad, équipe la plus titrée du royaume. Il est le principal accusé d'une affaire de trafic international de drogue. Et si le procès est ouvert depuis mai dernier, le feuilleton judiciaire vient de connaître un rebondissement majeur. RFI Casablanca, Mathias Reynal.
Les charges sont lourdes. Faux en écriture, fraude, abus de pouvoir et surtout trafic international de stupéfiants. Impossible de lister l'ensemble des chefs d'accusation tant ils sont nombreux. tout comme les accusés aux côtés de Saïd Nasseri, 28 au total. Parmi eux, des membres des forces de l'ordre, des agents de l'administration, des chefs d'entreprise, également poursuivis dans cette affaire tentaculaire. Les avocats de Saïd Nasseri ont décidé hier de boycotter l'audience pour dénoncer le refus du président du tribunal de faire comparaître la figure centrale du dossier Hadj Ahmed Ben Ibrahim, dit le Malien, celui que la presse surnomme l'Escobar du Sahara. C'est lui qui, par ses révélations, a fait éclater l'affaire. Corruption et influence politique, Saïd Nasseri aurait fait partie de ces notables maillons essentiels du système mis en place par ce baron de la drogue qui faisait remonter la cocaïne d'Amérique du Sud par l'Afrique de l'Ouest et jusqu'en Europe, qui trafiquait aussi la résine de cannabis. Hadj Ahmed Ben Ibrahim est incarcéré depuis 2019 au Maroc. Mathias Reynal, Casablanca. RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, après plus de 20 mois de guerre au Soudan, des habitants du sud de Khartoum ont reçu cette semaine un premier convoi d'aide humanitaire. 28 camions au total sont arrivés à Jebel Olia, à une quarantaine de kilomètres de la capitale. 22 de ces véhicules transportaient de la nourriture du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les autres, des médicaments, notamment de l'UNICEF. Cette aide devrait répondre aux besoins urgents de près de 200 000 enfants et familles en matière de santé et de nutrition. C'est le dernier oiseau prédateur encore vivant sur l'île Maurice, la cresserelle, sauvée de l'extinction dans les années 70, déclarée oiseau national en 2022. Est devenu le symbole de la conservation réussie. Ce rapace de petite taille a su s'adapter aux conditions insulaires, mais reste tout de même vulnérable. Reportage d'Abdoulaye Rali à Chamarel, dans l'ouest de l'île, à la découverte de la cresserelle de Maurice.
Réduite à 4 individus en 1974, la cresserelle de Maurice compte aujourd'hui 300 spécimens grâce à un programme de sauvetage. Sur les hauteurs de Chamarel, à la forêt d'Ébène, les écologues Noamie et Nicolas installent des nichoirs pour protéger les oiseaux endémiques en danger.
Elles auront plus de chances de pouvoir avoir un endroit pour se reproduire. Et quand on fait la translocation de nos oiseaux, on met les poussins qu'on récolte et on les met dans ces boîtes-là.
Et juste pour ajouter que la boîte a été fait le design de sorte que les prédateurs ne peuvent pas vraiment entrer à l'intérieur.
Ce rapace endémique est l'unique oiseau prédateur survivant de l'île. Il est rare et discret dans le ciel mauricien. Laetitia Habchi, directrice de l'Agence française de développement à Maurice, découvre un projet qu'elle finance à travers le Fonds de partenariat pour la préservation des écosystèmes critiques. Une visite marquée par sa toute première observation de la cresserelle de Maurice.
En voir un aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis à Maurice et j'avais pas encore eu l'occasion d'en voir, donc c'était un plaisir.
La cresserelle de Maurice, petit rapace de 35 cm, avec une envergure qui peut atteindre 50 cm, chasse principalement les geckos. Son plumage brun, chocolat, est strié de noir. Son cri ressemble à ceci. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
RFI 13h43, ici à Paris. Comme tous les jours, en cette fin d'année, on vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétro de l'année sportive 2024. Les grands moments, les grandes figures, et parmi elles, Binyam Girma et le cycliste érythréen, vainqueur d'étape et maillot vert du Tour de France cet été. Il est, avec Tadej Pogacar, le maillot jaune, la grande star de cette 111e grande boucle. Retour sur l'odyssée historique de Binyam Girma, c'est avec Thomas de Saint-Léger.
Ce lundi 1er juillet, l'histoire s'écrit à 70 km/h. Un coureur puissant, félin, surgit de la meute de sprinteurs lancés pleine balle vers Turin, dernier effort. Et c'est fait, Binyam Girma devient le premier noir africain à gagner sur le Tour de France. Un petit événement dans le monde très blanc du cyclisme. Un grand jour pour lui, pour son pays, l'Érythrée, scène de liesse, concert de klaxon à la gloire du héros national. Et ce n'est qu'un début, le surlendemain, Girma s'empare du maillot vert, le maillot du classement par points. Il remporte ensuite 2 autres étapes en costaud à Colombey-les-Deux-Églises et à Villeneuve-sur-Lot. Une Bini mania s'installe sur les routes. Le public français adopte, acclame ce coureur élégant venu de loin, toujours en vert, à une semaine de l'arrivée. Mais la menace est double. Philipsen, son rival belge, revient bien. Et de nombreuses montagnes restent à passer. Pas la grande tasse de thé de l'homme d'Asmara qui, en plus, se blesse sur chute, coude et genou bandé, Girmay souffre, s'accroche, au courage, jusqu'à Nice, terminus de cette grande boucle où sous les yeux de sa femme et de sa fille, il reçoit sur le podium final un maillot vert définitif, le premier d'une longue série peut-être. À 24 ans, Binyam Girmay a tout pour ne pas rester le tube d'un seul été.
Et puis les sports toujours, et le deuxième et dernier tour de qualification du prochain CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui aura lieu en février au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, se poursuit ce samedi. Parmi les 5 rencontres à suivre à 16h en temps universel, le Cameroun recevra la Centrafrique à Bafoussam, avantage aux Lions qui se sont imposés par le plus petit des scores au match aller. Dans le même temps, à Bamako, au Mali, le Burkina Faso tentera de renverser la Côte d'Ivoire après le succès 2-0 des éléphants lors de la première manche. Même heure, toujours Nigeria-Ghana, Rwanda, Soudan du Sud et Guinée-Bissau-Guinée. À 16h30, temps universel, Angola, Lesotho. Et puis à 17h, TU, match retour entre le Sénégal, champion en titre, et la Sierra Leone. Tout reste à faire entre les deux équipes après le résultat nul, un peu un but partout, du match aller. 13h45 ici à Paris. La dernière une de Jeune Afrique de l'année. Le magazine se projette sur 2025, nouvelle année aux nombreux enjeux et défis politiques, économiques et diplomatiques sur le continent où des millions d'Africains se rendront une nouvelle fois aux urnes. François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, avec Marion Casanov.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Marion.
Et quelles sont les échéances électorales importantes de cette nouvelle année ?
Alors, 4 élections présidentielles en 2025 sur le continent, Marion. D'abord aux Seychelles, où le président Ram Kalawan se représentera en septembre pour un second mandat. En Tanzanie, où la présidente Samia Suluhu Hassan, qui est en plein virage autoritaire, entend bien se faire réélire en octobre. Et enfin, toujours en octobre, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, où les présidents sortants Ouattara et Biya n'ont toujours pas fait connaître leurs intentions, même s'ils sont l'un et l'autre considérés par leurs partis respectifs comme des candidats naturels. Alors, la Côte d'Ivoire, on en a parlé ici même la semaine dernière, Marion, rien n'est encore figé en ce qui concerne les têtes d'affiche électorales. On y verra certainement plus clair à la fin du premier semestre de 2025. Quant au Cameroun, force est de reconnaître que l'échéance présidentielle est pour l'instant complètement préemptée par les rumeurs alarmistes sur l'état de santé de Paul Biya, qui ont beaucoup marqué le dernier trimestre de cette année 2024. D'un côté, le débat sur l'après-Biya est largement ouvert, y compris au sein même de la majorité présidentielle, mais surtout de la société civile, où nombreux sont ceux qui pensent, à l'instar de l'archevêque de Douala, Mgr Kleda, c'était au micro de RFI, qu'une nouvelle candidature d'un président affaibli de 91 ans ne serait pas réaliste. D'un autre côté, l'entourage de Paul Biya estime qu'il est le seul à faire tenir le système, et que s'il n'est plus là, les clans risquent de se déchirer. Alors Biya envisage-t-il de se représenter ? C'est plus que probable. Sa santé le lui permettra-t-il ? C'est une autre affaire, Marion.
Et on trouve d'ailleurs dans Jeune Afrique, on trouvera une infographie qui résume ces rendez-vous électoraux à venir sur le continent. 2025 sera une année cruciale aussi, dites-vous, pour les 4 régimes militaires en Afrique de l'Ouest. François, 4 pays où les transitions semblent plus que jamais à durée indéterminée.
Tout à fait. Vous remarquerez d'ailleurs, Marion, qu'en Guinée, par exemple, le terme de transition a été banni des discours officiels au profit de celui de refondation, alors lequel implique un long processus débouchant à terme sur une élection présidentielle. Dans les 3 pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, là où les juntes n'entendent pas s'encombrer d'élections démocratiques pour légitimer leur présence, 2025 sera une année cruciale tant pour les modalités de leur séparation d'avec la CEDEAO que sur le terrain sécuritaire. Les militaires avaient justifié leur coup de force par la dégradation de cette situation et la promesse de neutraliser les groupes terroristes. Or, manifestement, ils ne font pas mieux sur ce plan que les civils qu'ils ont renversés, voire pire, en ce qui concerne le Niger et surtout le Burkina. Parviendront-ils en 2025 à enrayer la spirale de violence dans laquelle est engouffré le Sahel depuis plus d'une décennie ? La réponse ne peut pas être que sécuritaire, elle doit aussi être politique, Marion.
Enfin, vous notez, François, l'irruption de mouvements de contestation inédits issus de la jeunesse qu'on a vu descendre dans la rue ces derniers mois au Kenya, au Ghana, au Mozambique, en Ouganda et ailleurs. Cette génération Z, que vous qualifiez de rebelle dans votre éditorial, sera-t-elle également sur le devant de la scène en 2025 ?
C'est vraisemblable, Marion, tant le mécontentement de la jeunesse à l'encontre des aînés est devenu systémique, porté par les bataillons de chômeurs urbains, diplômés, connectés, et dont les frustrations sont d'autant plus vives que leurs études ont fait naître chez eux des espoirs inassouvis. Leurs cibles, ce sont la corruption, l'exclusion, les inégalités, l'arrogance, l'ascenseur social et générationnel en panne, et tous les moyens semblent bons pour échapper à leur sort. Cela va des églises du réveil au djihadisme, en passant bien sûr par l'émigration, comme le démontrent les sondages, et sauf peut-être au Sénégal, où une véritable alternance par les urnes a eu lieu, cette génération Z ne croit plus aux élections parce qu'elle ne croit plus aux politiciens, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition. Pour changer son destin, son taux d'inscription sur les listes électorales est partout très faible, à mesure que croît son attirance pour les modes radicaux de contestation et ce qu'on appelle le dégagisme. La classe politique et dirigeante ferait bien d'en prendre conscience en 2025. Soit elle se préoccupe enfin sérieusement de la jeunesse, soit cette dernière s'occupera d'elle à sa manière, Marion.
Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
François Soudan avec Marion Kazanov et ce dossier, l'Afrique en 2025, est à lire dans le dernier numéro du mensuel. Le 28 décembre 2024, c'est également la dernière chronique de l'année de Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour.
Et pour refermer 2024, vous nous invitez à voir le film Messagère de guerre consacré au bataillon 6888 de l'armée américaine, exclusivement constitué de femmes noires. Elles avaient été envoyées en Europe en 1944 pour débloquer des millions de lettres et de colis destinés aux soldats. Jean-Baptiste, en quoi ce film intéresse-t-il les Africains ?
Il restitue une page d'histoire qui fait écho à celle du camp de Thiaroy que nous évoquions ici fin novembre. La plupart des jeunes filles du bataillon 6888, parties de Fort Oglethorpe en Géorgie, s'étaient engagées pour combattre Hitler. Bien que très entraînée, cette unité peinait à obtenir une mission opérationnelle dans une US Army alors encore très ségrégée. Avec tous ces véhicules mobilisés au front, l'armée américaine ne distribuait plus leurs courriers aux soldats et aux États-Unis. La première dame, Eleanor Roosevelt, est alertée sur l'angoisse des familles par une femme qui campait depuis des jours devant la Maison-Blanche. « Je sais qu'on n'est pas grand-chose. » Commence-t-elle par expliquer à Madame Roosevelt qu'il interrompt. On ne peut dire cela de personne. À quelques semaines d'un changement de locataire à la Maison-Blanche, cela fait un tel bien d'entendre l'humanisme d'Eleanor Roosevelt. Le président ordonne à la hiérarchie militaire de confier cette mission au bataillon 6888 qui débarque à Glasgow par un froid glacial en février 1944. À l'absence d'un ordre de mission clair et précis, sans moyens appropriés, le bataillon travaille à l'écart des soldats blancs et vit dans des dortoirs non chauffés.
Mais Jean-Baptiste, c'était tout de même l'armée américaine avec sans doute plus de moyens que les tirailleurs sénégalais.
Ce n'était pas évident, mais ces jeunes dames étaient sous les ordres d'une femme brillante qui leur ressemblait par ailleurs. Charity Adams, incarnée par Kerry Washington, leur tenait un tonifiant discours de motivation. Vous n'êtes pas seulement dans l'armée, vous êtes femme et en outre, vous êtes noire. Et parce que vous êtes noire et femme, vous n'avez pas le luxe de vous contenter d'être à la hauteur des autres. Vous avez l'obligation de les surpasser. Elle débordait d'imagination et de créativité, mais la visite d'inspection du général est d'une désarmante agressivité, tendant à démontrer leur incompétence. Parce qu'elles ouvraient les lettres avec des adresses illisibles pour trouver des indices permettant de situer le destinataire, le général s'emporte. Ne me dites pas que vous ouvrez et lisez des lettres qui appartiennent à des blancs. Et en plus, vous dépensez l'argent de l'armée en parfum, accuse-t-il en apercevant quelques flacons sur une table. Certaines femmes, explique Charity Adams, aiment vaporiser leurs parfums sur leurs lettres et par chance, quelques soldats savent reconnaître ces parfums quand les enveloppes sont maculées. Cela nous permet de faire un rapprochement avec l'état où ces parfums sont vendus et c'est un repère pour retrouver les destinataires.
Mais Roosevelt n'était plus là pour les honorer à leur retour.
C'est là que le général décida d'abréger l'expérience et de désigner un lieutenant blanc pour leur apprendre à diriger une unité. Charity Adams explose alors. « Mon bataillon a travaillé jour et nuit dans d'horribles conditions. Ces femmes ont dû mettre de l'eau dans leur propre casque pour se laver. Vous nous avez assigné un endroit sans qu'il y ait même un lit. Les soldats blancs répandent sur elles des rumeurs méprisantes et indécentes. Alors, je le dis haut et fort, je ne vais pas me laisser marcher dessus. » Elles s'attendaient à la cour martiale, mais leur résultat valut au bataillon une mission identique à Rouen, en France. Par contre, aucune reconnaissance à leur retour aux États-Unis, à part une tardive médaille d'or du Congrès américain. Lena Dericotte, dont la vie sentimentale porte tendrement ce film, a pu le visionner avant de décéder centenaire début 2024. heureuse que Tyler Perry ait choisi d'aussi belles et talentueuses jeunes dames pour les incarner. Nous pensions juste remplir une petite tâche et nous voici recevant 80 ans plus tard un si bel hommage. J'en ai les larmes aux yeux. Des larmes, ce film vous en arrache en effet.
Les précieux conseils de Jean-Baptiste Placa. On vous retrouve le week-end prochain sur Radio France Internationale. Allez, bientôt le retour de l'actualité internationale. Avant cela, on referme cette demi-heure avec un mot, une histoire. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher à Lucie Bouteloup.
C'est un mot, comme beaucoup de mots de la langue française, qu'on ne devine pas et qui nous surprennent un jour. Ah, il y avait un mot pour ça.
On l'a découvert en France dans les années 80 avec son tube « Il s'aime » et aussi dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris » dans laquelle il interprète depuis 25 ans le rôle de Frollo, l'archidiacre de la cathédrale. Auteur, compositeur et interprète, le Canadien Daniel Lavoie s'est aussi mis à l'écriture. Il a d'ailleurs publié 3 recueils de poèmes et même s'il confesse avoir eu un rapport à la langue française longtemps compliqué, il se réjouit aujourd'hui de certains mots. Alors pour cet épisode, il partage avec nous l'un d'entre eux.
Est-ce que je vous fais un café?
Oui, je veux bien, merci.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Voilà.
Merci.
J'ai envie de vous parler du mot subodoré. Parce que c'est un mot que j'ai appris très tard dans la vie. Et croyez-le ou non, pendant 45 ans, je n'ai jamais utilisé ce mot. Et un jour, quelqu'un m'a dit subodoré. Et là, j'ai plongé dans ce mot. Et j'ai découvert un mot qui, finalement, est le mot de toutes les intuitions et de tous les mystères. Subodoré, ça veut dire en dessous de l'odeur. Avant qu'on puisse vraiment sentir qu'il y a une preuve ou une indication de quelque chose, c'est l'intuition de quelque chose. L'intuition de Dieu, l'intuition de l'âme, toutes ces intuitions que nous avons. Et subodoré, pour moi, c'est la porte qui ouvre à tout ce mystère. Est-ce que je l'utilise beaucoup dans la conversation? Non. Mais j'écris beaucoup et je me rends compte que subodoré sort quand même assez régulièrement. Je me dis, franchement, t'as peut-être utilisé le mot un peu trop souvent cette semaine, mais en même temps, c'est quand même très agréable d'utiliser ce mot. Donc, c'est un drôle de mot. C'est pas un mot qui sonne bien. C'est pas comme amour ou gentillesse. Subodoré, je crois pas que c'est un mot de chanson. Peut-être Léo Ferré l'aurait fait, et probablement Georges Brassens aurait su le sortir au bon endroit, mais ce n'est pas dans mon talent d'arriver à le faire. Probablement parce que j'ai appris le français sur le tard, même si nous avons parlé français à la maison quand j'étais petit garçon. À l'école, j'avais droit à 40 minutes de français par jour, par la loi manitobaine, donc... Le français, pour moi, ça a été quelque chose que j'ai appris malgré tout le monde, malgré le gouvernement, malgré tous ceux qui ne voulaient pas qu'on l'apprenne. Et quand je suis arrivé en France et j'ai entendu parler des enfants dans la rue, j'ai dit, mais ils parlent tellement bien, alors que moi, je baragouine. Et donc, j'y ai travaillé, mais ça a été un long travail.
Donc, connaître ce mot, subodoré, c'était en quelque sorte une victoire sur la langue française.
C'était une victoire, c'est un trésor que je découvrais, comme beaucoup de mots français. Et oui, c'est un trésor.
Et vous, est-ce que vous subodorez souvent?
Tous les jours, je subodore sans arrêt, moi. Vraiment, je suis un grand subodorateur.
Selon le dictionnaire Le Larousse, le verbe subodorer vient du latin odorari, pour sentir, et il décrit le fait de pressentir, de se douter de quelque chose.
C'était un mot, une histoire.
Daniel Lavoie en tournée dans le monde entier pour la comédie musicale Notre-Dame de Paris. L'été est avec Lucie Bouteloup. 13h58 ici à Paris. Merci à Olivier Roux à la réalisation, à Marion Lestel, attaché d'édition, à Karine Franck à la rédaction en chef de cette édition d'Afrique Midi. Dans un instant, le retour de l'actualité internationale.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer nous propose cette semaine un florilège de ses invités des 12 derniers mois. Il nous fait revivre des rencontres inédites, des reportages in vivo, des prestations captivantes et autres entretiens passionnants. La musique a une fois de plus permis d'apaiser nos esprits, tourmentés par le tourbillon des événements mondiaux en ces temps de division insensée.
L'épopée des musiques noires, Joe Farmer.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI. Tout à l'heure sur RFI, Éco d'ici, éco d'ailleurs, Bruno Faure.
Pour cette dernière émission de 2024, revivez certains de nos entretiens les plus marquants de l'année. Acteurs ou analystes de l'économie, ils commentent les grands événements comme l'élection de Donald Trump, les guerres commerciales, les conséquences des conflits armés, mais aussi les dernières tendances de la tech et le sport.
Éco d'ici, éco d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Emprisonnée à Téhéran, l'ethnologue Fariba Adelka nous livre dans ce numéro son regard sur la prison des femmes d'Evin.
On parle souvent de milieu carcéral comme un lieu de normes, de règles, de discipline, d'étouffement évidemment. Ce que j'essaie de dire, c'est comment aussi la société a pesé sur le devenir de ce lieu.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.